Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 18 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Au sommaire de cette émission, le journal, les sports, la semaine politique en Australie. Et au sommaire de ce bulletin, le Premier ministre australien a défendu le bilan économique de son gouvernement alors qu'une décision sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt sera connue ce mardi 18 février. Fin de la réunion de crise des Européens à Paris, divisée sur l'éventuel envoi de troupes de maintien de la paix en Ukraine. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud présentera aujourd'hui mardi un amendement au Parlement de l'État pour punir les personnes qui font des remarques racistes en public. Le Premier ministre australien a défendu le bilan de son gouvernement alors qu'une décision sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt sera connue tout à l'heure, ce mardi 18 février. Anthony Albanese se dit convaincu que l'Australie a évité certaines des pires conséquences économiques de la crise du coût de la vie grâce à des réductions d'impôts, des allègements de la facture énergétique, des services de garde d'enfants moins chers et d'autres politiques. Le Premier ministre a déclaré que la décision sur les taux d'intérêt qui pourrait soulager une partie de la pression à laquelle les familles sont toujours confrontées ne dépendait finalement pas de lui. Les passagers et l'équipage d'un avion atterrissant dans la ville canadienne de Toronto ont été évacués après que l'avion s'est retourné et s'est immobilisé à l'envers. L'une des 80 personnes à bord du vol en provenance des États-Unis a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de lui-même à l'extérieur de l'avion décrivant ce qui venait de se passer.
We're in Toronto. We just landed. Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. Everybody. Most people appear to be okay. We're all getting off. Some smoke going on.
La police régionale de Peel a signalé que 15 personnes avaient été blessées. Plusieurs d'entre elles ont été transportées par avion vers des centres de traumatologie, tandis qu'un enfant a été transporté vers un hôpital pour enfants. Fin de la réunion de crise des Européens à Paris, divisée sur l'éventuel envoi des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Les précisions de Daniel Vallot pour Radio France Internationale.
C'est sans doute Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui a su le mieux résumer l'état d'esprit de ses homologues à la sortie de l'Élysée. Tous les participants réalisent que notre amitié avec les États-Unis est entrée dans une nouvelle phase, a-t-il déclaré, en pointant dans la foulée l'impérieuse nécessité qu'a désormais l'Europe d'investir davantage dans sa sécurité. Sur ce point, les Européens semblent d'accord, même si l'ampleur des dépenses qu'ils devront engager continue de faire débat. Pas de consensus en revanche sur l'autre sujet sensible abordé ce lundi soir à l'Élysée, l'envoi de militaires européens en Ukraine pour garantir la sécurité du pays face à la Russie en cas de cessez-le-feu. À l'issue de la réunion, le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé hautement inapproprié de l'envisager, se disant même un peu irrité de voir le débat surgir avant même que des négociations aient débuté. À l'opposé, le Premier ministre britannique a redit qu'il était prêt à déployer des troupes. Keir Starmer, qui a qualifié de premier pas vital cette réunion informelle, affirmant qu'une nouvelle rencontre avec ses homologues européens pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine après son retour de Washington, où il doit rencontrer Donald Trump.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré qu'il ne voyait pas de rôle pour les puissances européennes dans les négociations de paix envisagées pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a également exclu toute concession territoriale à l'Ukraine, dont environ 20% est actuellement contrôlée par la Russie. De hauts responsables américains doivent rencontrer les négociateurs russes en Arabie Saoudite pour la première fois depuis que Donald Trump a surpris ses alliés en annonçant qu'il lancerait des efforts de paix avec son homologue russe Vladimir Poutine. Sergueï Lavrov a déclaré que les pays européens ne voulaient pas vraiment la paix.
The European philosophy hasn't gone anywhere, so I don't know what they should do at the negotiating table. If they're going to weasel out some cunning ideas about freezing the conflict while actually intending, as is their custom, nature, and habit, to continue the war, then why should we invite them at all?
Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud présentera aujourd'hui, ce mardi, un amendement au Parlement de l'État pour punir les personnes qui font des remarques racistes en public. L'amendement ajoutera un délit d'incitation à la haine raciale à la loi sur les crimes, ce qui, s'il est adopté, signifiera que les personnes qui ont fait de tels commentaires en public pourraient passer jusqu'à 2 ans en prison et écoper d'une amende de plus de 10 000 dollars. Le Premier, Chris Minns, a déclaré que la liberté d'expression politique serait protégée par ces changements et qu'il existe des exceptions pour les références directes à des textes religieux lors d'enseignements religieux. Il a déclaré qu'il n'avait aucun autre commentaire à faire sur les incidents récents, notamment le cas de 2 infirmières qui auraient fait des remarques menaçantes sur une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux.
You know, I'm not going to speak about the investigation and the motives of the individuals involved, but we have had a spate of anti-Semitic attacks in New South Wales over the summer period, some of which included the burning down of a childcare centre, presumably because the individuals believed it was the synagogue. So, no, the threat is real, and I'll let the police get on with their inquiries.
Des organisations islamiques ont accusé la police et les organisations politiques d'avoir 2 poids, 2 mesures dans leur réponse aux attaques contre 2 femmes musulmanes à Melbourne. La Fédération australienne des conseils islamiques et les conseils islamiques du Victoria et d'Australie occidentale font partie des signataires d'une déclaration qui affirme que la réponse viscérale à une vidéo antisémite a été, je cite, « hypocrite, détournée et une campagne calculé d'indignation à motivation politique. Les groupes affirment que les actions d'Israël suscitent la frustration et la colère envers l'État, mais ne sont pas une expression de haine envers le peuple juif. Le groupe affirme s'opposer à toute forme de discrimination fondée sur la religion ou la race, mais estime que cela devrait s'étendre à tous les peuples de manière égale. Le premier de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a déclaré que la dernière chose qu'il souhaitait faire était de perturber les déplacements des voyageurs de New South Wales. Des centaines de services ferroviaires de Sydney ont été annulés hier lundi et ce mardi, tandis que le personnel du syndicat Rail, Tram and Bus continue de mener des actions syndicales. Une réunion de la Fair Work Commission aura lieu demain, mercredi, concernant l'action industrielle, et Chris Minns dit qu'il espère que la commission interviendra pour mettre fin au chaos. Le Conseil régional des îles du détroit de Torres appelle les gouvernements à renforcer les frontières. Cela survient alors que les habitants des îles du détroit de Torres affirment qu'il y a eu une augmentation du nombre de ressortissants étrangers utilisant une frontière, je cite, « faible » pour s'infiltrer en Australie. Les autorités ont confirmé le mois dernier que 2 Roumains étaient arrivés illégalement sur l'île de Masig et avaient embarqué illégalement à bord d'un avion. Le maire du Conseil régional des îles du Détroit de Torres, Philemon Mosby, a déclaré sur SBS qu'il était important de protéger l'avenir du détroit de Torres et de son territoire.
What we've seen in the inconsistency of permanent relevant authority staff has caused an high level of frequent breaches in the Torres Strait Treaty. Not only from people within the Torres Strait Treaty villages, but from other foreign countries that have come through PNG to try and sneak into Australia through the Torres Strait.
Les autorités affirment que les Roumains sont en détention à Brisbane et que des enquêtes sont en cours. Le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, n'a pas encore réagi aux dernières incursions et aux appels à l'action. Le chef de l'opposition fédérale, Peter Dutton, a déclaré qu'il était ouvert à des discussions avec des députés indépendants dans le cas où aucun des deux grands partis ne remporterait le nombre minimum de sièges nécessaires pour gouverner en majorité. 75 sièges sont nécessaires pour gouverner en tant que gouvernement majoritaire. Peter Dutton a déclaré aux électeurs qu'un vote pour les candidats indépendants équivaudrait à un vote pour Anthony Albanese et le Parti travailliste. Un sondage News Poll publié dans The Australian hier montre que la coalition conserve une avance de 51% contre 49% pour le Parti travailliste, malgré une baisse d'un point de son vote primaire à 38%. L'enquête a été menée auprès de 1244 électeurs à l'échelle nationale la semaine dernière entre le 10 et le 14 février. Et puis un avertissement a été émis concernant les sondages électoraux selon lesquels les résultats très groupés pourraient ne pas refléter les votes des Australiens. L'analyste électoral Kevin Bonham déclare que cela ne reflète peut-être pas le résultat final des élections car l'opposition mène dans ce cycle électoral de la même manière que le Parti travailliste dans les sondages de 2019. La ministre des Services sociaux, Amanda Rishworth, a déclaré sur Channel 9 qu'elle restait confiante quant à un résultat positif aux élections qui n'ont pas encore été convoquées par le Premier ministre Anthony Albanese. La première du Victoria, Jacinta Allen, a déclaré que l'ancien commissaire de police, Shane Patton, n'avait pas d'autre choix que de démissionner. Shane Patton, qui était policier depuis 1978, a annoncé son départ immédiat dimanche soir après un vote de défiance à son égard de la part de plus de 12 000 des quelque 15 000 agents de policiers. Wendy Steedman quittera son poste de commissaire adjointe de la police du Victoria pour devenir commissaire en chef de la police du Victoria par intérim, tandis que le commissaire de la gestion des urgences du Victoria, Rick Nugent, assumera ce rôle. Un autochtone serait décédé en détention à Canberra. La police de Lay City a déclaré que l'homme de 38 ans avait subi un épisode médical au centre Alexander McConnochie et n'avait pas pu être réanimé. Le décès survient 4 jours seulement après le décès d'un aborigène de 73 ans en détention provisoire dans la même prison. Les communautés de la région de Pilbara en Australie-Occidentale ont été isolées par les eaux de crue provoquées par le retrait d'un système cyclonique. Plus de 70 personnes vivant dans les communautés aborigènes isolées de Warralong et Goodbinya ont été évacuées tandis que l'accès routier à la ville de Marble Bar a été restreint. Baz Harris est du Centre de ressources communautaires de Marble Bar. Il a déclaré sur SBS NITV que c'était la troisième fois qu'ils étaient isolés.
We're being told it could be up to 6 to 8 weeks for both the main highways to open. So once that water does subside, we can actually get main roads out. They'll work from Headland, Marble Bar and meet in the middle and get us back up and running. But it could be some time before that happens and we might even need a food drop from DFIS as well if we run short.
Et on passe à la météo pour ce mardi en Australie à Perth, maximale de 32 degrés, Adélaïde 28, Melbourne 21, Hobart 18, Canberra 27, Sydney 27, Brisbane 29, Darwin 32 et à Alice Springs, maximale de 37 degrés. Voilà, fin du journal. Merci de l'avoir suivi. 13h18 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et je passe l'antenne à notre collègue Christophe Mallet pour le Journal des Sports.
Journal des sports, et on débute ce journal avec bien du football. La Ligue 1, la 22e journée du championnat français. Et les résultats, match nul entre Brest et Auxerre sur le score de 2 partout. Marseille qui bat Saint-Etienne sur le score de 5-1. Le Paris Saint-Germain qui est parti battre Toulouse, donc dans la Ville Rose, sur le score de 1-0. Lyon qui bat Montpellier 4-1. Angers qui bat Reims sur le score de 1-0. Et Monaco qui bat Nantes, qui atomise Nantes sur le score de 7-1. Oui, 7-1. On écoute Antoine Grenier pour RFI.
Monaco s'est offert une victoire écrasante 7-1 sur le FC Nantes. Des Canaries qui avaient pourtant mené au score dès la 4e minute avant l'expulsion précoce de Kozza à la 8e. Et là, les Monégasques ont enchaîné avec au passage un triplé du Danois Mika Biéret. Deuxième triplé pour l'ancien joueur de Sturm Graz après celui face à Auxerre. De quoi sidérer son entraîneur à 10 Hutter.
Yes, I'm impressed for sure. It's the second time he scored 3 goals.
Bien sûr que je suis impressionné, c'est la deuxième fois qu'il marque un triplé. Son impact est indéniable, 7 buts en si peu de matchs, c'est impressionnant. Mais nous sommes aussi ravis d'avoir vu l'entrée de Georges Ilinikena qui a marqué 2 buts pour son retour de blessure. Et puis il y a la belle histoire de Mamadou Koulibaly. Son dernier match, c'était notre dernier à la maison la saison dernière, déjà contre Nantes. C'était bien qu'il rejoue après sa longue blessure due à une rupture des ligaments croisés. Tout le monde était ravi de le revoir sur un terrain.
On the pitch back.
Voilà donc pour ce match. Dans le reste de la journée, eh bien, Strasbourg bat Lens au score de 2-0. Nice bat Le Havre sur le score de 3-1. Et Lille bat Rennes sur le score de 2-0. Et d'ailleurs, c'est un match à noter puisque eh bien, l'international algérien Nabil Bentaleb est revenu d'une opération au cœur. L'année dernière, au mois de juin, il a eu un problème cardiaque. On lui a mis un défibrillateur. Eh bien, c'était son premier match et il a marqué 2-0 donc, dans cette victoire. Contre Rennes, on écoute Nabil Bentaleb.
C'est un moment assez particulier pour moi. À la dernière minute, je ne sais pas si je vais rentrer. On me dit de rentrer. J'ai bossé très très dur ces derniers mois. Ma famille, franchement, c'est tout ce cercle très rapproché qui m'a permis de tenir pendant ces 8 derniers mois et me donner la possibilité de rêver à revenir un jour sur le terrain de football. Et quelque part, c'est pour eux que je le fais.
Donc Nabil Bentaleb qui marque tout de suite après son retour, donc 5 minutes après son retour en jeu, après une opération cardiaque. On parle de football toujours, mais en Grande-Bretagne cette fois-ci, en Angleterre, où l'on jouait la 25e journée. Les résultats, Brighton qui bat Chelsea sur le score de 3-0. Arsenal bat Leicester sur le score de 2-0. Brentford bat West Ham 1-0. Bournemouth qui bat Southampton sur le score de 3-1. Ipswich Town et Aston Villa font match nul 1-1. Manchester City qui se relève avec une victoire contre Newcastle 4-0. Fulham qui bat Nottingham Forest sur le score de 2-1. Everton qui bat Crystal Palace sur le score de 2-1. Tottenham qui bat Manchester United sur le score de 1-0. Et la belle victoire de Liverpool 2-1 contre Wolverhampton qui n'est pas sans déplaire à l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot.
Vous savez, c'est tellement difficile de gagner un match de football. Les gens se disent toujours, c'est bon, tu as Mo Salah, il marquera toujours un but pour toi. Je le répète, mais c'est vraiment difficile de gagner un match de foot tous les 3 jours après avoir déjà beaucoup joué cette saison. C'est pourquoi ce succès est très important pour clore cette semaine difficile. On a eu du caractère, maintenant c'est vrai qu'on pourrait mieux se comporter avec le ballon, c'est évident.
Voilà donc pour le football en Angleterre. On va faire un petit détour eh bien, par le Portugal. Et le président du FC Porto, président légendaire Pinto da Costa, est décédé la semaine dernière. Et ça a été un choc dans tout le pays, et notamment pour les supporters du FC Porto. Garé de Jesus est un journaliste au Portugal.
C'est ça, c'est la figure emblématique, et l'une des figures emblématiques la plus forte du football portugais qui est partie. Aujourd'hui, c'était les obsèques hein, de Jorge Nuno Pinto da Costa à 87 ans. Et c'est des images très fortes qui, toute la journée, rythment les... l'actualité des télévisions portugaises et des chaînes de news, on le voit à partir de ça a commencé ses obsèques à l'église, il a fait un arrêt dans le stade où on a vu son cercueil autour de tous ses trophées. Donc c'est des images très 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 fortes et qui marqueront, c'est sûr, le football portugais à jamais. Et pour vous expliquer à quel point Nuno Pinto da Costa c'est une figure très très forte aussi, avec quelques polémiques hein, parce que On va pas se refaire. Le football portugais est marqué aussi tout au long de sa vie par des polémiques. Mais c'est une sorte de Jean-Michel Aulas, mais avec deux Ligues des Champions et deux Ligues Europa en plus pour le FC Porto. Il a vraiment marqué toute une ère dans le football portugais.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour le football européen. En ce mardi, petit détour maintenant bien par les parquets de basketball. C'était le All-Star Game, donc un tournoi de basketball qui regroupe tous les meilleurs joueurs à la fois américains et mondiaux donc de ce championnat NBA. Et bien sûr, le français Victor Wembanyama était là, était présent. Il a perdu malheureusement, mais il a beaucoup appris. Victor Wembanyama.
Non, c'est pas du tout anecdotique. C'est et la déception... Voilà, je me dis toujours qu'on aurait pu, plus, faire plus, faire mieux. Mais bon, c'est vrai que les équipes étaient construites de manière assez spéciale et que voilà, ils ont eu de la réussite aussi en face. Je me suis pas fait d'amis, effectivement, mais j'ai beaucoup appris, j'ai posé des questions. J'ai eu des, franchement, de joueurs incroyables. Je citerai pas de nom, même, je donnerai pas d'exemple, mais j'ai posé beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de réponses très, très intéressantes. C'est dur de répondre, mais j'ai vraiment aimé ce format. Maintenant, pour moi, le plus gros travail, c'est sur la motivation des joueurs. Voilà, c'est même si on sait que c'est compliqué, on sait que c'est dur. Personnellement, à ce moment de l'année dernière, j'étais en moins bonne forme. Aujourd'hui, je sens que mon corps est plus prêt. Et donc, j'ai le potentiel de tout donner sur un match comme ça. Je pense que c'était vraiment sympa. J'en tire un bon souvenir.
Voilà, donc Victor Wembanyama sur notre programme, notre journal des sports. Et c'est tout pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
h 29 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français. Passe l'antenne à notre collègue Christophe Mallet qui est avec Patricia Meunier pour la semaine politique en Australie.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et comme chaque mardi, on va décrypter l'actualité politique. Et alors que le président américain Donald Trump chamboule le commerce international avec le retour de lourds tarifs douaniers, l'Australie continue de plaider pour une exemption des droits de douane à l'égard de ses exportations d'acier et d'aluminium vers les États-Unis. Les explications de Patricia Meunier.
Le commerce international est secoué depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence. Son projet de tarifs douaniers, attendu depuis longtemps, en a choqué plus d'un. Dans ce contexte, le gouvernement australien continue de plaider en faveur d'une exemption de tarifs sur les exportations vers les États-Unis. Il souhaite ainsi défendre ses industries. Très actif depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain a ainsi signé lundi passé un décret imposant 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis. Les mesures débuteront le 12 mars prochain, sans exception ou exemption. Certains pays sont déjà informés sur leur situation. Les droits de douane imposés au Canada et au Mexique pour les inciter à mieux contrôler leurs frontières avec les États-Unis devraient être effectifs au 1er mars. L'acier et l'aluminium produits par les deux pays seront dès lors taxés à 50%. Rien n'a encore été décidé en ce qui concerne l'Australie qui pourrait bénéficier d'une exemption. Donald Trump s'est montré positif vis-à-vis du Premier ministre australien Anthony Albanese avec qui il a parlé par téléphone. On l'écoute.
I just spoke to him, very fine man, and he has a surplus. I mean, we have a surplus with Australia, one of the few. It's one of the only countries which we do, and I told him that that's something that we will give great consideration.
Entre-temps, certaines voix américaines critiquent le continent. Elles affirment carrément que les importations d'aluminium australien tuent le marché américain. Elles mettent en doute les chances de l'Australie d'être exemptée des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Elles affirment également que l'Australie n'a pas tenu son engagement verbal avec le précédent gouvernement Morrison. Il s'agissait de limiter volontairement ses exportations d'aluminium à un niveau raisonnable. Le vice-premier ministre Richard Marles n'est pas au courant d'un quelconque accord.
Ultimately, that is a question best directed to Peter Dutton and the coalition. I mean, it's whatever has happened there has happened under a former government.
Canberra se justifie par ses liens étroits avec Washington en matière de défense et de diplomatie, et aussi par l'excédent commercial entre les deux nations. Le Premier ministre Anthony Albanese reste confiant dans la décision du président Trump.
President Trump gave a very clear signal yesterday when he said that an exemption for Australia is under great consideration. They're his words. They're consistent with the discussion that I had with President Trump. It was a very warm and constructive discussion and engagement. We'll continue to do so.
Comme les tarifs douaniers n'entreront pas en vigueur avant le 12 mars prochain, cela donne presque un mois au gouvernement australien pour plaider sa cause.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
13h, 36 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français.
Vos conversations. SBS French.
On a le plaisir d'avoir Nabila Aliane, qui est la directrice de l'Alliance française de Canberra. Bonjour et bienvenue sur les ondes.
Bonjour Jean-Noël, merci de me recevoir dans votre émission. C'est très gentil de votre part.
Alors c'est la première fois qu'on se parle en 2025. On va peut-être commencer avec le festival du film français. On connaît déjà le film de l'Opening Night, c'est sur Charles Aznavour, et aussi le film de la Closing Night. Peut-être un petit mot sur les dates à Canberra.
Eh bien, merci Jean-Noël. Tout d'abord, je voudrais juste préciser, c'est mon premier French Film Festival, je ne sais pas si vous le savez, en tant que directrice, comme j'ai commencé au mois d'août 2025, donc c'est mon premier French Film Festival en tant que directrice, et je suis extrêmement honorée. Et j'attends avec impatience voir les gens assister à ces films. Donc, pour l'Opening Night, on a M. Aznavour le 6 mars. Donc, dans les autres alliances, c'est un peu différent. À Canberra, l'Opening Night sera le 6 mars et la Closing Night sera le 9 avril avec In the Sub for Love ou À toute allure. Donc, nous avons l'Opening Night qui est un événement extrêmement spécial. À 6 heures, bien sûr, et la closing, un jeudi l'opening, et la closing sera un mercredi avec deux grands films, comme celui de M. Aznavour.
Nabila, on va parler des soirées spéciales qui ont été organisées à Canberra autour des thèmes bien connus comme, par exemple, la Ladies' Night, Taste of France et autres.
Effectivement, Ladies' Night avec N'avoue Jamais, ou bien Rivera Revenge, ce sera le 13 mars. Un jeudi. Nous avons aussi Centerpiece, qui est Le Comte de Monte Cristo, un grand film qui sera diffusé le 9 mars, le dimanche 9 mars. Taste of France, Tout Stocké, qui est un film franco-canadien, je dirais, oui. Tout Stocké, ou All Stirred Up, et qui sera le jeudi 27 mars. Bien sûr, on a un film classique ou classic movie, L'Armée des Ombres, Amir Chenoz, qui est aussi un film programmé pour les screenings, school screenings. Donc, on le propose aux élèves des écoles ici à Canberra. Bien sûr, on a aussi des cinéwines. Donc, ce sont des sessions où on offre du vin aux spectateurs qui viennent. Les cinéwines, on a par exemple la Saint-Exupéry qui aura lieu le mardi 18 mars. On a aussi le Déluge, j'ai eu l'honneur de le voir aussi, un vrai chef-d'œuvre, sincèrement. Je veux juste préciser, c'est, les films sont de sujets variés et tout public peut être, peut se voir dans ces films, se retrouver. Donc, je conseille vraiment à toute personne de revoir ces films, d'essayer de trouver de quoi il s'agit. Mais sincèrement, je pense que les spectateurs vont trouver ce qu'ils cherchent dans ces films-là. La variété des films que nous avons en 2025. Le film Déluge, qui aura lieu, donc, qui sera diffusé le mardi 25 mars. C'est un cinéwine aussi. On a aussi un film intéressant, Les Heureux Gagnants, qui parle de l'auto, de gagner au loto, Lucky Winners. Nous avons aussi Jane Austen a gâché ma vie, qui sera diffusé le 3 avril, aussi un très beau film à voir. Et puis, le dernier, ben, le cinéwine sera Emmanuel, qui sera diffusé le samedi 5 avril.
Un mot peut-être, Nabila, sur les school screenings. Est-ce que vous avez des dates à signaler?
Donc, nous avons le Comte de Monte Cristo, qui sera le mardi 11 mars, le mercredi 19 mars et le vendredi 28 mars. Bien sûr, Monsieur Aznavour, qui sera diffusé le lundi 17 mars et le jeudi 3 avril. Nous avons aussi Tout Stocké, qui est un très beau film aussi pour les élèves des écoles. Et là, on a plusieurs séances le jeudi 13 mars, le vendredi 14, le lundi 24 mars et bien sûr le mercredi 26 mars. On a aussi L'Armée des Ombres, un beau film à proposer à nos élèves aussi. Là, ce sera le mardi 8 avril. Et bien sûr, Le Panache, qui est une très belle histoire pour les enfants, pour les élèves, jeudi 20, le 20, le 21 et le 30 mars. Je pense qu'on a deux autres aussi. La plus précieuse des marchandises, là où ça raconte d'une femme, d'un bûcheron qui trouve un bébé. Très belle histoire aussi. Ça, ce sera le mardi 18 mars et le 27 mars aussi. Et le dernier, ce sera Sauvage, qui sera diffusé le 12 mars, non, le 4 avril et le 7 avril. Nous essayons de varier les dates, de faire un peu d'espace entre les dates pour donner plus d'opportunités, d'opportunités, oui, aux professeurs pour bien organiser ces school visits. Tout en, je voudrais aussi préciser que les school visits sont nous fournissant des kits pédagogiques pour ces films-là. Donc, les professeurs vont emmener leurs élèves au cinéma et il y a une séance pédagogique pour bien étudier le film et le rendre plus intéressant en classe, que les alliances fournissent aux professeurs, l'équipe pédagogique, je parle.
Peut-être un message que peut-être j'ai raté pour ce festival du film français. Je pourrais peut-être vous demander vos coups de cœur. Je sais qu'il y a 42 films, mais on encourage les gens à aller voir tous ces films si possible.
Exact. Donc, on a 42. Alors, je vais juste expliquer. Il y a certains films qu'on va voir et on peut trouver tous les sujets abordés. Et chacun va retrouver les points qu'il aime ou les histoires qu'il aime. Par exemple, L'Amour Ouf, un très beau film où chaque personne va l'interpréter à sa manière. Moi, personnellement, j'ai retrouvé ma jeunesse, mon enfance, quelques traits. Oui. Et en tant que professeur moi-même, je vois très bien mes étudiants retrouver quelques traits de leur vie dans ce film-là. Monsieur Aznavour, je suis tombée amoureuse de ce film. Sincèrement, il est extrêmement beau. Et il y a aussi, les films This Life of Mine, c'est ma vie. C'est la vie d'une femme de 50 ans. Et oui. Certaines de nous ont réussi leur vie, d'autres non. Et bien, on peut se retrouver dans ce film-là. On peut se retrouver, que ce soit des femmes qui ont réussi leur vie, ou tout simplement des femmes qui ne l'ont pas et qui se retrouvent dans cette histoire-là. Il y a aussi My Everything, c'est un film sur un jeune maman célibataire qui s'occupe d'un enfant autiste. Et même si nous n'avons pas, même s'il y a des femmes, celles qui n'ont pas d'enfants autistes ou avec des besoins spécifiques, on peut se retrouver, on peut se voir avec cette femme qui se bat, qui essaie de fournir une belle vie à son enfant ou son enfant qui grandit et qui a sa propre vie. Donc sincèrement, une grande variété de films et d'une grande qualité aussi.
Et donc, toutes les informations sur afcanberra.com.au.
Effectivement. Et on a aussi les programmes qui sont distribués partout dans les alliances. Donc, chaque alliance a des programmes, des livrets de programmes qu'on distribue aux écoles, aux bibliothèques, tous ceux qui seraient intéressés de transmettre ces programmes-là, de les donner aux personnes intéressées. Voilà.
Et on encourage les gens à réserver dès maintenant pour ne pas être déçus, parce que les sold out sessions, ça arrive assez rapidement.
Effectivement. Et puis, on a des tarifs pour des personnes, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, on a des tarifs spéciaux pour les groupes, on a des tarifs spéciaux pour les professeurs, les school screenings. Donc, si on se met dès le début et on achète nos tickets, on est plus gagnant à les acheter bien avant. Parmi les films aussi, j'ai oublié de citer The Good Teacher, qui est une histoire vraie. Ça aussi, c'est chaque personne va interpréter le film à sa manière. Et voilà, le voir et l'analyser d'une manière différente. Mais je trouve sincèrement, c'est extrêmement intéressant ce que nous proposons comme film. Cette année, tout en respectant ce qui a été fait les années précédentes. Mais en tant que directrice, là, j'ai vu encore un peu plus ce côté des films et je suis extrêmement agréablement surprise, voilà, je dirais.
Merci à vous, Nabila, et bon festival du film français chez vous à Canberra à partir du 6 mars prochain.
Effectivement. Merci, Jean-Noël. Merci de votre invitation.
Et à bientôt sur SBS en français.
Très bientôt, au revoir, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce 18 février. Le Premier ministre australien a défendu le bilan économique de son gouvernement alors qu'une décision sur une éventuelle baisse des taux d'intérêt sera connue ce mardi 18 février. Fin de la réunion de crise des Européens à Paris, divisée sur l'éventuel envoi de troupes de maintien de la paix en Ukraine. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud présentera ce mardi un amendement au Parlement de l'État pour punir les personnes qui font des remarques racistes en public. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous pour le prochain programme, c'est jeudi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Belle fin d'après-midi et à très bientôt. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.